n'aura pas la même saveur que d'être servi par sa grand-mère.
La tradition dauphinoise, 100% crème, sans fromage. Et puis de l'autre côté, j'avais une mamie qui était maternelle et qui avait vraiment ce côté du gratin de patates très populaire, qu'on faisait avec un petit peu de lait, parce que la crème, ça coûtait cher. On frottait le fond du plat à gratin avec un petit peu d'ail.
Finalement, une mère, elle aime bien concocter des bons petits plats à ses enfants.
Et en fait, on met tout ça à cuire dans une grosse casserole et on l'oublie en fait toute la nuit. Il faut que ça caramélise. Et ça, c'est vraiment le goût de mon enfance en fait. Et en plus, ça ressemble à rien. Enfin, on met ça dans une assiette, c'est pas forcément très joli parce que tout est un peu le même camaïeu de marron. Tout a cuit en fait tellement longtemps que même les œufs ont pris la coloration des pommes de terre. Enfin, c'est pas très joli.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. On l'a vu, sur ces 20 dernières années, le marché du livre de cuisine est plus que jamais florissant. Recettes de grands chefs, guides pratiques, manuels thématiques, beaux livres, best-sellers de cuistots tarifiés vus à la télé, chaque mois, des milliers de recettes sont imprimées. Et elles participent toutes à leur manière à la construction d'une mémoire culinaire collective. Il y a pourtant un angle mort. Au sein du vaste cosmos des recettes qui prennent vie dans les cuisines de ce monde, certaines restent secrètes car jalousement conservées dans les familles, ou imprécises car personne n'a jamais pensé à en noter les proportions des ingrédients. Ces recettes de famille ont un goût unique, celui de la confidentialité, du fait maison et des souvenirs d'enfance. Ce sont ces spécialités ultra-régionales que l'on ne fait que dans telle ou telle bourgade. Ces plats aux intitulés simples, genre poté de mamie, ou encore ces astuces qui ne se chuchotent que dans l'antre des cuisines domestiques. En quoi les histoires culinaires permettent-elles l'écriture de nos identités familiales? Que veut dire faire famille en cuisine? Et que faire pour préserver nos recettes menacées d'extinction? Qu'est-ce qui se joue dans le secret des marmites? À mesure que les anciens nous quittent, que les petits-enfants font leur vie aux quatre coins de la planète, que les familles se recomposent, que peut-on encore transmettre dans le creux de nos assiettes? Pourquoi les goûts de nos recettes de famille sont-ils si difficiles à reproduire? En cette fin d'année, Bouffon vous propose une plongée dans l'odyssée des cuisines familiales, sur la trace des plats au goût unique. Le rougail saucisse de Tante Adeline, les soufflés au fromage de Papé, les crêpes de Loulou. À chaque famille, son patrimoine gustatif et ses monuments culinaires. Dans ce premier épisode de cette série sur les plats de famille, posons le décor. Rendons hommage à nos madeleines de Proust, ces plats réconfortants qui portent tant de souvenirs en nous. C'est souvent en plongeant dans nos souvenirs d'enfance que l'on parvient le mieux à retrouver ces sensations qui nous sont chevillées au corps, ces émotions culinaro-affectives, ces anecdotes gloutonnes. Et vous, quels sont vos plus grands souvenirs associés à la bouffe familiale? Chez moi, ce sont ces nouilles de riz que ma mère faisait à la main. Je la vois encore dans la cuisine, avec une bassine d'eau chaude et son rouleau à pâtisserie, à délicatement aplanir les pâtons d'un magnifique blanc mat, avant de les couper en longues lamelles. Ces mêmes nouilles qui, une fois plongées dans un bouillon, semblaient devenir un vrai câlin dans le ventre. Pour parler des liens vibrants que la cuisine entretient avec notre mémoire familiale, je suis allée rendre visite à la chef Manon Fleury.
Je suis chef de cuisine et je suis en ce moment en résidence au Perchoir à Ménilmontant.
Manon Fleury m'a parlé de sa grand-mère, tout en reconnaissant, en souriant, que cette figure nourricière et affectueuse était souvent convoquée par les chefs. Manon, émue, a tenu à rendre hommage à la sienne, à qui elle a dit au revoir cette année même.
Je trouve que évidemment c'est passionnant d'étudier les liens et ce qui fait qu'on, par exemple, on cuisine aujourd'hui, et moi, ce qui fait que je cuisine aujourd'hui, et effectivement, parfois, je vais chercher dans des odeurs, dans des saveurs qui me rappellent, enfin, il y a souvent des odeurs ou des saveurs qui me rappellent automatiquement certaines personnes ou certaines manières de cuisiner, et je trouve ça passionnant qu'il, parfois, quand on va sentir, typiquement, quand je mets le nez dans du persil haché, je pense à la, je me retrouve dans la cuisine de ma grand-mère. Et ça, je pense que c'est, effectivement, sans vouloir toujours ramener sa grand-mère quand on parle de souvenir de chef, je pense que c'est évidemment hyper important de revenir sur ses racines, savoir ce que ça nous a inspiré et comment notre goût aussi s'est formé grâce à ces liens familiaux.
Est-ce que tu aurais une Madeleine de Proust qui te vient en tête?
Alors, je pense à une gelée de coings, parce qu'en ce moment, on cuisine beaucoup les coings, c'est la saison. Ils sont particulièrement bons cette année, d'ailleurs. Et en fait, ma grand-mère faisait une gelée de coings. Et c'est étrange parce que j'aimais pas trop ça quand j'étais enfant, parce qu'elle faisait beaucoup de confitures, elle avait des vergers. Et donc, l'été, on allait ramasser des fruits avec elle et avec mon grand-père. On ramassait des mirabelles, on ramassait des prunes, on ramassait aussi des pommes. Voilà, on y allait souvent au mois d'août où voilà, il y avait tous ces fruits-là au verger. Et on avait aussi des coings. Et ma grand-mère faisait une gelée de coings. Et je l'ai en fait rarement vu faire cette gelée de coings. C'était cette confiture de mirabelle qui était vraiment sa confiture de mirabelle, on va dire, phare. Donc je me souviens vraiment l'avoir faire. En revanche, cette gelée de coings, je me souviens pas très bien parce que je pense qu'elle la faisait plus tard, plus au mois d'octobre où on n'était pas chez elle parce qu'on y allait souvent l'été. En revanche, quand on était au petit déjeuner, il y avait à la fois une confiture de mirabelle, une confiture de prune et cette gelée de coings. Et souvent, je la choisissais par défaut. C'était vraiment pas celle que je choisissais en premier. Et aujourd'hui, vraiment, quand je goûte du coing, évidemment, ça me rappelle ma grand-mère et j'adore ça. Vraiment, c'est un goût que je trouve hyper délicat, hyper parfumé et sur lequel on peut en plus déposer des arômes comme, je pense souvent à la rose. Souvent, en ce moment, on met de l'eau de fleur d'oranger. On fait une espèce de... Au restaurant, on fait une espèce de purée où on met cette eau de fleur d'oranger qui vient parfumer le coing et qui est vraiment... très délicate. Et en fait, je pense que je n'ai donc jamais vu ma grand-mère faire cette gelée de coing parce qu'à l'époque, j'aimais pas vraiment ça. Et pourtant, quand je goûte du coing, ça me fait automatiquement penser à ma grand-mère. Et je pense que je n'ai jamais refait cette gelée de coing parce que je me dis que c'est un peu un truc hyper sacré que j'arriverai jamais à refaire comme ma grand-mère. Et du coup, je garde ce goût en tête et cet arôme en tête sans vouloir reproduire à l'identique cette gelée de coing.
Ce souvenir de gelée de coing, Manon Fleury l'associe fortement à sa grand-mère donc, mais aussi à Vesoul et à la lenteur des gestes en cuisine.
On se trouve en Franche-Comté et à côté de Vesoul où mes grands-parents avaient donc acheté des vergers. On se retrouvait souvent à beaucoup de cousins chez mes grands-parents et on allait tous ramasser les fruits dans ce verger. Et j'ai vraiment souvenir de mon grand-père qui secoue les arbres pour faire tomber les fruits et nous qui les ramassons avec ma grand-mère sur des bâches, etc. Et après, vraiment, ces moments en cuisine avec ma grand-mère qui devaient traiter l'abondance des fruits à ce moment-là. Donc, on avait effectivement toujours beaucoup de mirabelles parce que c'est une région à mirabelles. On parle souvent de l'Alsace, mais la Franche-Comté est juste à côté. Et du coup, on trouve aussi quand même beaucoup de mirabelles en Franche-Comté. Et donc, ces coings que je ne voyais, je pense que je ne les voyais pas vraiment parce qu'ils arrivaient effectivement plus tard. Il y avait aussi des noix, etc. Et donc, on rapportait à la maison. Chez mes grands-parents, ces fruits, et on faisait des gros moments, de grosses périodes de cuisine avec ma grand-mère, où on allait cuisiner, à la fois faire des confitures, mais elle faisait aussi des tartes. C'était une grande pâtissière, en fait. Elle faisait des tartes, elle faisait des gâteaux. Et donc, on se retrouvait à faire ces pâtisseries-là avec elle. Et je pense que j'ai beaucoup appris en la regardant faire. Et elle avait cette magie-là où elle faisait les choses assez lentement. Et je pense que c'est aussi toute cette délicatesse que j'ai gardée, parce que je me rappelle vraiment l'avoir faire. Nous expliquer comment on faisait. Elle avait une recette spéciale de pâte à tarte, elle avait sa recette de gâteau au chocolat, etc. Elle avait vraiment des recettes hyper fixées. Et voilà, donc je pense que cette gelée de coing reste un mystère parmi toutes ces recettes qui étaient hyper strictes. Il fallait vraiment respecter la lettre. Je pense qu'elle était aussi hyper rigoureuse là-dessus. Il y avait cette gelée de coing qui reste une énigme, mais qui en ce moment, j'y pense beaucoup en fait.
Pour garder à tout jamais le précieux souvenir d'une personne qui nous est chère, on pense généralement au pouvoir d'une photo, d'un bibelot ou d'un vieux pull que l'on a récupéré en vidant une maison ou au hasard d'un repas de famille. Mais les souvenirs que l'on garde des uns et des autres peuvent être alimentaires, à travers une recette griffonnée ou un Tupperware surgelé. C'est le cas de Marie Hérault de la Noé, qui tient la cave à vin et cave à manger Cambuse à Paris, aux côtés de son ami et associé Clément Pajard. J'ai rejoint Marie un matin pour boire un café dans le 19e arrondissement de Paris.
Je suis la co-gérante de Cambuse, qui est une cave à vin, cave à manger dans le 19e à Paris. Et moi, je suis en cuisine. Je me dis pas vraiment chef, parce qu'il n'y a pas d'équipe avec moi, je suis moi-même. Et on fait des petites assiettes à partager. Alors évidemment, il y a la charcuterie, le fromage qu'on attend dans un bar à vin, mais il y a aussi des petites assiettes de saison avec des légumes de saison, voilà, que je cuisine. Et puis mon associé Clément qui s'occupe du vin, voilà.
Chez Cambuse, Marie envoie des assiettes à partager toujours gourmandes et bien assaisonnées. Mention spéciale pour sa bruschetta de fleurs de brocoli ou dernièrement ses poireaux vinaigrettes sauce turkmam. Marie a commencé par me parler de son héritage culinaire familial qui emprunte à différents coins du globe.
J'ai en fait une double culture culinaire. J'ai une mère indienne et un père français et je suis née en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai pas de tradition culinaire française vraiment parce que mon père cuisinait pas. C'est plutôt ma mère. Donc, j'ai des goûts indiens et en même temps, comme j'ai grandi à Abidjan où il y avait une grosse communauté asiatique, en fait, à chaque fois qu'on sortait au restaurant, c'était des restaurants vietnamiens ou chinois. Donc voilà, moi, c'est ce que j'ai comme goût, c'est à la fois l'Inde et l'Asie. Et je pense que c'est ce qui m'inspire beaucoup dans ma cuisine aujourd'hui. Voilà.
Quand je lui ai demandé ce que les souvenirs familiaux en cuisine évoquent pour elle, Marie m'a parlé du bocal le plus précieux de son frigidaire.
Le plat pour moi, qui n'est pas vraiment un plat, qui est un condiment en fait, c'est le condiment de ma grand-mère, qui est la chard de crevettes. En Inde, tu as beaucoup de condiments à côté des plats en fait. Tu as les chatni, si je ne me trompe pas, qui sont plutôt comme des sauces, des salsas verdées. Tu mixes de la coriandre, du citron, etc. Et puis tu as les achars qui sont un peu plus comme des pickles presque. Et elle faisait un achar de crevettes qui était juste incroyable. Elle est partie avec sa recette. Je regrette beaucoup parce que j'étais trop jeune à l'époque pour me réaliser l'importance que ça aurait eu pour moi de noter cette recette, mais du coup, il m'en reste un pot, enfin un tiers de pot, et je ne veux pas le manger. En fait, il est dans mon frigo. Je ne sais même plus s'il est encore bon, juste je ne peux pas le manger. Je me dis, c'est le truc qui me reste d'elle, enfin, le dernier goût de cet achat. Et donc, je le regarde, et de temps en temps, je me dis, allez, mange-le, et non, je ne le mange pas. Voilà, je ne le goûte même pas, il est juste là, quoi.
C'est incroyable cette histoire. Tu as ce pot depuis combien d'années alors ?
Là, écoute, ça fait au moins 8 ans, quoi, 6-7 ans. Alors, les achats, ça se conserve très longtemps, parce que par essence, comme c'est un pickle, mais je pense qu'il a perdu de son goût et de tout ça. Mais ouais, je l'ai depuis un bon moment, quoi.
Tu te souviens quand elle le préparait ? T'as des souvenirs de ça ou t'étais trop jeune ?
En fait, j'ai pas trop le souvenir de. J'ai le souvenir autant de préparer avec ma mère beaucoup. Elle m'appelait son marmiton, donc m'incomber les super tâches, genre couper les tomates en petits morceaux, les oignons, les choses comme ça. Mais j'ai pas le souvenir de voir ma grand-mère cuisiner. Je pense qu'en fait, elle cuisinait chez elle. Elle nous apportait tout ça dans des Tupperware, en fait. Donc voilà, il y avait. Je sais que cette recette d'achar de crevettes, elle est super complexe parce que la cuisine indienne est quand même assez compliquée en termes de d'épices, de dosage, de temps. Surtout, ça prend beaucoup de temps. Donc, je pourrais pas te dire exactement, mais voilà. Je me doute des épices qu'il y a dedans, mais je sais pas exactement comment le reproduire.
Ça me fait sourire de penser à ce bocal unique en son genre, stocké au frais dans la cuisine de Marie. Plus tellement mangeable, mais impossible à jeter pour autant. Il n'a finalement aucune autre fonction que celle de gris-gris, un objet terrestre dont l'immense valeur affective tient au fait de contenir un condiment préparé par une personne qui n'est plus de ce monde. Il y a, derrière le fait de tenir autant à ce bocal, l'idée que certaines choses sont si uniques qu'elles ne peuvent être si simplement reproduites. C'est ce que ressent aussi Hubert Vergouin, chef du restaurant Substrat à Lyon. Hubert m'a parlé d'un certain plat qui s'avère être pour lui autant associé à sa grand-mère maternelle qu'à sa grand-mère paternelle.
Alors c'est un plat que je cuisine finalement très peu, très rarement. C'est le gratin de pommes de terre ou gratin dauphinois. Donc là, il y a gros débat et ça m'évoque l'enfance parce que j'avais deux grand-mères cuisinières et c'était deux façons de préparer le gratin différents. Ma grand-mère paternelle, elle le préparait vraiment dans la tradition dauphinoise, 100% crème, sans fromage. Et puis de l'autre côté, j'avais une mamie qui était maternelle, elle qui avait vraiment ce côté du gratin de patates très populaire qu'on faisait avec un petit peu de lait parce que la crème ça coûtait cher, où on frottait le fond du plat à gratin avec un petit peu d'ail et du fromage dessus. C'était vraiment deux cultures du gratin différents. Les deux étaient magiques et je sais que j'ai vraiment l'eau qui me vient à la bouche en y pensant, parce que à chaque fois c'est vraiment comme ça des plats cultes de mon enfance que aujourd'hui je ne cuisine pas dans mon établissement, que j'ai toujours beaucoup de bonheur à manger chez les autres. Et à chaque fois qu'on mange le gratin de quelqu'un, on peut pas s'en empêcher de penser au gratin de sa grand-mère. Et je pense que ce serait le gratin de pommes de terre. Ouais. C'est marrant parce que chacune des versions correspondait vraiment à la personnalité de l'une de l'autre, de leur histoire, de leur enfance, là d'où elle venait. Ma grand-mère paternelle était bressane, donc c'était vraiment la culture de la crème. Et ma grand-mère maternelle a vécu une enfance étant aînée de 13 enfants, à devoir faire à manger pour ses frères et sœurs. C'est une autre approche de la vie et de la cuisine qui est plus dans le partage et puis aussi dans l'économie. Voilà, même si c'est de la patate sublimée par un gratin, du fromage et de la crème, il y avait toujours ce souci de faire à manger à toute une famille. Il fallait que ce soit bon, bien évidemment, et ça se ressentait vachement dans la façon que ma grand-mère avait de préparer son gratin. Il n'y a pas de différence. Pour moi, les deux sont intéressantes et les deux sont là d'où je viens et représentent ce que je suis, parce que ma maman, mon papa et mes grands-mères. Avec à la fois une culture de la gastronomie, avec une éducation tournée autour de cette culture, et en même temps, ne pas oublier que mes parents étaient des ouvriers, mes grands-parents étaient des ouvriers. Et ça me rapproche beaucoup de mon terroir de Lyonnais, en fait, hein, terroir de Lyon, en fait.
À la manière de la Madeleine de Proust, qui explique que la mollesse beurrée de ce gâteau a réveillé chez l'écrivain l'édifice immense du souvenir, nombreux sont les saveurs à être solidement ancrées en nous. Pour comprendre comment ce phénomène fonctionne exactement, un petit détour par la psychologie et les neurosciences s'impose. J'ai donc tendu le micro à Arnaud Leleu.
Je suis maître de conférence à l'Université de Bourgogne à Dijon en psychologie et neurosciences. Donc, j'intègre les deux aspects dans mes recherches au sein d'un laboratoire qui s'appelle le Centre des sciences du goût et de l'alimentation.
Arnaud Leleu explique le principe de la réminiscence telle que décrite par Proust.
Alors, la Madeleine de Proust, donc, au départ, comme son nom l'indique, c'est un épisode d'un ouvrage de Proust, qui est raconté par Marcel Proust dans un de ses ouvrages, dans Du côté de chez Swann, très familièrement, enfin très simplement, je pourrais dire, la Madeleine de Proust, c'est ce passage où Marcel Proust raconte qu'il déguste une Madeleine, et ça lui évoque un souvenir ancien de son enfance, quand il consommait des Madeleines, et ça lui rappelle tous les événements qui étaient associés, l'odeur des lieux, les paroles des personnes présentes, même le sentiment vécu à cette époque, le plaisir ressenti, donc simplement en mangeant à nouveau cette madeleine qui était associée à tous ces souvenirs. Ce qui se passe dans ce phénomène que l'on appelle la madeleine de Proust, qui est appelé même le phénomène Proust en anglais, c'est le fait de mettre en avant que lorsque l'on mange quelque chose, et parfois également dans les travaux qu'on mène sur l'odorat, et ça peut suffire, simplement le fait de sentir quelque chose suffit à réactiver le souvenir d'un épisode en particulier que l'on a vécu, qui était associé à cette même odeur ou ce même goût. Alors, je me permets de faire une petite parenthèse ici, qui est que quand on dit le goût, en général, on utilise ce mot pour parler de la sensation que l'on a lorsque l'on mange, sachant que le goût au sens scientifique, au sens physiologique, c'est le sens lié à nos sensations sur la langue. C'est assez réduit, en fait, aux sensations salées, sucrées, umami, acide, amer. Il y a quelques sensations comme ça. Et en fait, ce que l'on appelle familièrement le goût, d'un point de vue scientifique, c'est ce qu'on appelle la flaveur, c'est-à-dire la combinaison entre le goût et l'odorat. Puisque lorsque l'on mange, c'est majoritairement l'odorat qui participe à l'aspect qualitatif de la sensation qu'on a. Et on le constate tous quand on est enrhumé. On dit souvent que les choses n'ont pas beaucoup de goût. Donc, c'est particulièrement lié à l'odorat, ce phénomène de la Madeleine de Proust. En fait, ce qu'il se passe, la particularité de l'odorat dans ce phénomène, c'est que c'est un sens qui est très lié, qui est connecté directement, même dans notre cerveau, aux émotions et à la mémoire. Donc, finalement, on pourrait dire que les émotions et tout le souvenir d'un événement associé à une certaine odeur sont réactivés simplement par la présentation future de cette odeur. Et généralement, lorsque ce sont des odeurs qu'on a senties dans l'enfance et après oubliées pendant un certain temps, le phénomène est assez fort. Ça arrive à pas mal de gens de, en sentant une odeur, tout à coup avoir cet éveil de tout un tas de détails, de souvenirs associés à cette même odeur dans le passé. Donc, quand on sent des molécules odorantes, ça c'est traité par une première région qui s'appelle le bulbe olfactif et qui, contrairement aux autres sens, est très rapidement connecté aux régions qui gèrent nos émotions, aux régions qui gèrent notre mémoire, comme par exemple, citons l'amygdale pour les émotions ou l'hippocampe pour la mémoire. Et donc, ça en fait peut-être pas un pouvoir démultiplié, mais du moins, il a cette capacité à aller toucher très rapidement les émotions et les souvenirs que l'on a vécu, sachant que l'émotion participe fortement aux souvenirs, puisqu'elles vont ancrer durablement les souvenirs lorsqu'on a des émotions positives ou négatives dans l'événement. Donc, c'est ce qui fait qu'en évoquant le souvenir, ça réactive toutes les sensations des autres sens que l'on a pu vivre à ce moment-là, et les autres sens sont moins capables de faire ça. Une autre particularité que je pourrais donner, si vous voulez, c'est que les sens comme la vue, par exemple, sont des sens qu'on utilise énormément au quotidien, dont on a l'impression qu'ils dominent nos sensations. Et du coup, on fait tellement de choses avec la vue qu'on se rend moins compte de l'activation que ça pourrait avoir, un souvenir visuel par rapport aux autres sens. Alors que l'odorat a cette particularité vraiment, même si on a du mal à définir quelle est cette odeur, eh bien, on la reconnaît avant tout par ce souvenir. On est capable de reconnaître, de se dire « je me souviens avoir déjà senti cette odeur il y a longtemps, dans telle situation, etc. »
Mais pourquoi la plupart de nos souvenirs culinaires, notamment olfactifs et gustatifs, sont-ils autant associés à l'enfance et à la petite enfance ?
Ce que je pourrais vous donner, qui est directement en lien avec les travaux que nous menons dans mon équipe de recherche, c'est on sait deux choses principales par rapport à l'odorat dans l'enfance. La première, c'est que chez le très jeune enfant, enfin, dès la naissance et dans les premiers mois de vie, l'odorat est un sens qui est déjà assez bien développé et qui participe à beaucoup de choses, notamment chez le jeune humain dans les premiers temps, qui participe à l'allaitement, à la relation avec sa mère, à avoir une transition entre l'avant et l'après-naissance, parce qu'il reconnaît des odeurs chez sa mère qu'il avait déjà trouvées lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. Donc c'est un sens très développé. Et les autres sens, ça dépend lesquels, mais ne sont pas tous aussi bien développés. Si je prends l'exemple de la vue, qui nous sert énormément ensuite quand on est adulte, à la naissance, par contre, la vue reste un sens très peu développé, qui a beaucoup de choses à apprendre. Donc, en fait, le poids de l'odorat dans notre développement sensoriel est important dans les premiers temps de vie. Et il est important, justement, en interaction avec les autres sens. Parce que lorsque l'on est très jeune, on va davantage s'appuyer sur ces échanges d'informations entre les sens pour naviguer dans le monde, on pourrait dire, parce que les sens n'étant pas encore complètement développés, cet aspect multisensoriel est exacerbé pour que le petit, l'enfant, apprenne des choses et crée ses souvenirs, justement. Et l'odorat, ici, a un poids important, particulièrement dans l'enfance, alors que lorsque l'on grandit, lorsque la vue, l'ouïe, commence à prendre énormément de poids dans notre perception, c'est vrai qu'on se rend moins compte de la présence de l'odorat et que ça devient un peu en fond, en background.
J'ai ensuite demandé à Arnaud Leleu de me partager une Madeleine de Proust. Celle-ci n'est pas culinaire, mais n'en est pas moins puissante.
D'avoir un souvenir évoqué comme ça par l'odeur, c'était pas en mangeant, c'était parce que dans mon enfance, j'avais une tante chez qui on allait quand j'étais jeune, qui habitait dans un vieux centre-ville en France, où on a cette odeur particulière, un peu d'humidité qu'on peut trouver dans les vieux immeubles, alors que chez moi, je n'avais pas cette odeur. Et en fait, de nombreuses années plus tard, pendant mes études, je me suis retrouvé à habiter dans une autre ville, mais dans un immeuble comme ça, un vieil immeuble de centre-ville qui avait cette odeur d'humidité. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, parce qu'en entrant la première fois dans cet immeuble, cette odeur m'a réactivé justement ce souvenir de chez ma tante quand j'étais très jeune. Et j'ai repensé à plein de choses que j'avais vécues chez cette tante, simplement avec cette odeur d'humidité d'immeuble. Et j'en parle encore maintenant, alors que ça fait déjà pas mal de temps que ça m'est arrivé, parce que j'avais été assez interpellé par la force de souvenir qui était revenue, alors que j'étais incapable, deux minutes avant, de dire même que c'était encore présent dans mon esprit, quoi. Donc voilà, ça c'est un exemple qui m'a marqué d'une fois où une simple odeur a réactivé énormément de souvenirs de mon passé.
Cette odeur d'humidité dont parle Arnaud Leleu, lui était-elle agréable ou désagréable ?
Eh ben, c'est assez intéressant. Est-ce que cette odeur d'humidité dans un vieil immeuble est une odeur agréable ? En fait, je ne saurais pas dire. Je pense que ça fait partie de ces odeurs qui ne sont en soi finalement ni vraiment agréables ou désagréables. Ça dépend de ce que les gens en font. Vous savez, en fait, dans les odeurs, il y a tout un pan d'odeurs qui sont globalement jugées négativement par tout le monde. Il y en a d'autres qui sont jugées positivement. Et encore, c'est peut-être un peu plus variable. Ça dépend de nos goûts et de ce que l'on apprécie, justement. Et il y en a pas mal d'autres où ça dépend du contexte, en fait. Par exemple, si je vous présente une odeur d'ail dans un flacon, vous ne savez pas que c'est une odeur d'ail et vous êtes dans un laboratoire de recherche, vous sentez ça, votre première réaction, a priori, va être négative, c'est-à-dire que ça ne sent pas bon. Alors que cette même odeur d'ail, dans le contexte d'un repas, si vous aimez l'ail et que vous en mangez, dans le contexte d'un repas, ne va pas vous paraître désagréable. Donc je pense que cette odeur d'humidité dont je parlais, c'est pas une odeur qui est fondamentalement agréable, qui peut même être perçue de manière désagréable par certaines personnes, mais lorsqu'elle est dans le contexte d'un immeuble avec toute l'histoire que ça implique, le fait que ça sente l'humidité dans ces vieux immeubles et tout le souvenir que ça a évoqué chez moi, forcément je la décrirais plutôt comme une odeur agréable.
Je trouve fascinante l'idée qu'une odeur n'est pas toujours bonne ou mauvaise par définition, mais que son appréciation va dépendre du contexte dans lequel on la découvre. J'adore l'odeur d'un oignon qui caramélise dans du beurre, mais si cette même odeur était celle d'un parfum, pas certaine que je serais ravie de l'avoir toute la journée dans le cou. Il en va de même de certains goûts dans les vins. Alors que le côté paysan de certaines quilles nature est signe d'une agréable rusticité pour les uns, il peut être perçu comme très déplaisant pour d'autres. Finalement, en matière de souvenirs culinaires, le raisonnement est le même. Les chouquettes de tante Mathie, le pain de viande de Virgile, les biscuits aux noix de Pépé ou l'omelette de mon père étaient-ils objectivement si mémorables ? Ces spécialités ont-elles de quoi faire partie de nos panthéons de la gourmandise ? En plus de leur bon goût, c'est évidemment les contextes dans lesquels on a ingéré certains mets qui nous les rendent si incroyables. C'est aussi, en plus des conditions dans lesquelles on les a consommés, leurs caractéristiques bien singulières, leurs recettes uniques, qui les rendent si incomparables. Dans le prochain épisode de cette série sur les plats familiaux, nous allons donc parler d'inventivité en cuisine, d'invention accidentelle et de créativité. Car dans chaque famille, il existe toujours des versions très particulières de plats que tout le monde connaît. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcasts. Ça nous aide beaucoup à bien référencer notre travail. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho, Mathilde Jonin et Diane Le Sieur. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon.